Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et une étoile brille dans les petits matins de France Culture. Bonjour tout le monde. Mon invité ce matin est Juliette Binoche, la star et la marraine de ce beau festival de cinéma organisé par l'ONF, l'Office National des Forêts. C'est la deuxième édition de ce festival qui a pour titre Branches et Ciné et qui propose de projeter 27 films qui célèbrent de différentes manières les forêts du monde. Films d'hier et d'aujourd'hui, documentaires et fictions qui seront projetés donc jusqu'au 22 juillet, soit en pleine forêt, soit dans des salles pas loin des forêts d'Île-de-France, de Hauts-de-France et de Normandie. Projeter des films donc qui mettent la forêt à l'honneur dans des forêts, voilà la bonne idée du festival Branches Ciné, festival qui permet à Juliette Binoche, la grande comédienne, d'affirmer son combat pour la biodiversité. Et à la fin de ce réveil culturel, Olivier Delcroix du Figaroscope se joindra à nous.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Juliette Binoche, puisque vous êtes donc la marraine de ce festival Branches et Ciné, si on commençait par parler justement des films où la forêt tient un rôle principal, fondamental, que vous retenez comme ça, ça c'est un jeu de mémoire aussi.
Dernièrement, comme j'ai interviewé Jacques Perrin pour cette année, là, pour l'ONF, j'ai pu voir nombreux de ses films. Et c'est quelqu'un qui est un amoureux éperdu de la nature. Il l'a prouvé en filmant la mer, les oiseaux, les singes, les loups, la forêt, mais les animaux dans la forêt, microcosmos aussi, les insectes dans la forêt. Et j'étais très heureuse de l'interviewer parce que ça m'a permis d'abord de mieux le connaître et puis de lui dire merci aussi, parce que c'est des personnes comme ça qui prennent le temps et qui ont conscience d'abord du trésor qu'est la nature et de nous aider à nous relier à ces espaces, à ces lumières, à ces sons, à ces odeurs qui nous échappent bien quand on vit en ville, souvent enfermée. Oui, il y a un côté carcéral, hein, la ville. On est dans des bureaux, on est dans des bagnoles, on est dans le métro, on est dans des trains, dans des voitures. Enfin, il y a ce côté enfermé et qui est vraiment loin de la vie sauvage des forêts ou de la vie sauvage des plaines. S'il en reste encore quelques-unes qui n'ont pas été industrialisées par l'agriculture. Donc c'est ces films-là, moi, qui dernièrement m'ont touchée. J'ai eu le privilège de travailler avec Naomi Kawase, qui est une réalisatrice japonaise et qui souvent fait ses films en pleine nature. On a filmé il y a un an et demi, on a tourné dans la forêt de Yoshino, à 2 heures de Tokyo. Et il y a là-bas des forêts magnifiques, hein, des parcours aussi magnifiques. Et l'ONF, l'Office National des Forêts, est une organisation qui protège les forêts de France. Ils ont à peu près 350 forestiers qui gardent ces forêts pour... Alors, il y a pas de forêts primaires, hein, comme il y a au Brésil, en Amazonie, mais aussi en Nouvelle-Guinée. Et en Indonésie, où il y a des forêts qui sont encore sauvages, mais il y en a de moins en moins parce qu'ils coupent les arbres, parce que en Chine, en Europe, dans plein pays différents, on demande des bois exotiques et en fait on tue des arbres qui ont 200-300 ans, mais d'une façon absolument sans vergogne. Et c'est à nous de nous responsabiliser en tant qu'individus, acheteurs, de ne pas prendre des bois exotiques, mais de plutôt privilégier des bois français qui sont produits spécialement pour les besoins des Français, quoi, ou de l'humanité, disons. Voilà.
Tourner un film dans une forêt, Juliette Binoche, ça nécessite de ramener du matériel, du câble. Est-ce que c'est possible d'ailleurs de tourner un film dans une forêt en respectant la forêt? Comment on fait? Est-ce que vous avez eu affaire à ce genre d'expérience?
Ah, tout à fait. Et spécialement avec Naomi Kawase qui regarde les arbres comme des êtres humains et qui il y a une vraie un vrai respect, une vraie conscience de pas abîmer la forêt et même de la filmer avec amour, de la filmer avec respect et dans son intégralité si je peux dire. Même je me souviens sur le Hussard sur le toit de Jean-Paul Rapdeau, on a beaucoup voyagé en France et on a tourné dans plein d'endroits différents et il y avait toujours un vrai respect du milieu dans lequel on tourne parce que la forêt se laisse filmer, elle n'est pas payée, elle n'est pas rémunérée pour ça, il y a un minimum de respect à avoir. Mais je crois que là c'est rentré vraiment dans les mœurs, les gens quand ils vont en forêt ils font attention. Ils ne laissent pas les papiers derrière, les plastiques derrière. Je crois que ça, c'est quand même bien ancré dans nos formes de vie. Bon, il y a des exceptions, mais je trouve que c'est quand même une des qualités, disons, de nos éducations, en tout cas.
Alors, comment filmer la forêt ou la nature? C'est la question, c'est comment on filme la nature? Est-ce que la faune, la fleur qu'on ne peut pas diriger, comment la filmer? Comment rendre compte de ça dans un film?
Mais je peux vous rassurer aussi, on ne peut pas diriger les êtres humains non plus. On peut les guider, on peut les...
Leur donner au moins un texte, une histoire, un contexte?
Oui, mais ça, c'est pas dirigé. C'est pas dirigé de donner un texte. Après, il y a toute la vie à donner dans ce texte-là. Et ça, il s'agit de donner, de faire croître des choses en soi pour qu'elles vivent. Et ça, c'est d'abord, c'est la vie qui vous le donne. Et puis après, c'est sa perception, sa sensibilité, ses capacités qui sont différentes pour chacun, son intelligence. Et puis, je crois beaucoup, moi, au bonheur partagé, en fait. Et sur un plateau, entre un metteur en scène et un acteur, il y a, et les techniciens, il y a de la joie qui est partagée. Et c'est ça qui fait aussi une scène.
Et cette joie peut être partagée, y compris avec la nature, la flore, la faune?
Oui, je pense que notre capacité à recevoir la nature, on le voit bien. Et c'est dit dans plein de poèmes et plein de formes artistiques que la nature a une interaction avec nous humains et on n'a pas besoin d'ailleurs. On est tous artistes quelque part parce qu'on a cette possibilité de lien. Combien d'histoires on a entendues de je ne sais plus qui c'était, mais il a retiré une épine d'un pied d'un lion et quand il est allé dans l'arène, le lion l'a reconnu et l'a épargné, il l'a défendu. Et on sait bien que dans la nature, il suffit juste d'être en écoute, en lien, et les choses se passent. On peut appeler ça des signes de la vie, mais sans arrêt, on a tout d'un coup, il fait beau et on attendait. Moi, je me souviens d'ailleurs, j'avais été au Pérou, j'avais été faire 4 jours de traversée dans les montagnes pour arriver au Machu Picchu, et il pleuvait sans arrêt, il faisait froid, enfin, c'était vraiment pénible de marcher dans ce... Et puis de dormir, surtout dans l'humidité et tout. Et puis, je rêvais qu'une chose, c'était qu'il y ait un arc-en-ciel quand on arrive au Machu Picchu. C'était un peu romantico-mielleux, mais enfin, bon, c'est ce que je pensais. Et pendant le voyage, j'en ai parlé à 2-3 personnes. Et donc, on rêvait de ce merveilleux arc-en-ciel. Et en fait, quand on est arrivé, le pari était gagné, il y a eu un bel arc-en-ciel. Et je suis persuadée, alors est-ce que c'est le fait du hasard? Bon, c'est fort possible, mais quelque part je m'en fiche. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a pour moi, il y a un lien qui s'est passé. Et il faut y croire. Et ça, c'est ce que fait le... On a un pouvoir à l'intérieur de nous qui est celui on peut l'appeler comme on veut, mais de faire un lien avec... Alors on peut appeler ça foi, croyance, ce qu'on veut, mais de faire un lien... vers un possible, un lien vers quelque chose d'ineffable, qui peut pas être nommé, mais en faisant ce lien qui est en fait un déjà un lien entre son corps, son cœur et sa pensée. Voilà, c'est finalement ça, la foi pour moi. Et qui fait que ben, y a des choses qui se passent. Mais pour ça, il faut avoir un espace pour recevoir. Si on n'est que dans le désir de savoir, de rationaliser tout, avec notre volonté, ça ferme des portes quand même. C'est bien d'apprendre, et moi j'adore lire et apprendre sur les choses, mais il y a un moment donné, la connaissance est autre chose, c'est pas le savoir. La connaissance, c'est un lien qui est plus indicible, qui est possible par notre sensibilité, par les sensations, par notre intuition et notre regard qui n'est pas celui du jugeur, mais qui est celui du tout possible. C'est vraiment le regard de l'enfant, finalement. On l'appelle innocence, mais aussi l'innocence, pour moi, elle se gagne. C'est pas forcément quelque chose qui est donné dès le départ, c'est quelque chose qui se gagne au fur et à mesure du temps. Et vous voyez, un signe du...
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Le tonnerre qui fait son...
C'est le vent qui acquiesce.
Voilà, exactement. Et l'innocence, elle se gagne. Ouais, je pense que vers la fin de sa vie, regardez les personnes âgées, il y a parfois une innocence inouïe, au fond, ou une humilité, parce qu'ils ont vécu tellement, ils ont été tellement battus par 10 000 épreuves, expériences, qu'il y a quelque chose qui est celui du lâcher prise, quoi, d'accepter que finalement on est rien, mais aussi on est tout.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
I had a story about a bird who fell in love under a tree. The girl he loved lived in a house in an orchard by the sea. And every day they used to kiss under the tree close to the sea. They made love there so many times, their bodies shining out on the ground. Once upon a forest there was a tree.
Alors, puisqu'on parlait justement de l'enfance, Juliette Binoche, comment c'est fait, c'est accompli votre initiation à la forêt ?
Un des premiers souvenirs que j'ai eu, c'était en pension. J'étais adossée à un arbre, j'avais été vaccinée et je ne pouvais pas bouger. Et je voyais mes copains, copines jouer au ballon. Je devais avoir 4-5 ans et j'ai eu une sorte de conscience mais c'était vraiment adossée à cet arbre. Que ben, j'étais un être humain indépendant et aimant aussi, finalement. C'était ça, c'était le « je suis », mais dans cette espèce d'enracinement et de clarté. Et j'avais l'impression d'être liée à cet arbre à jamais.
C'est étrange parce que moi, quand j'étais jeune, la forêt était intimement liée aux contes qui font peur. La forêt, on peut s'y perdre, rencontrer des animaux hostiles, des insectes qui font peur. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la forêt, c'est celle qui va nous sauver, qui va sauver la planète.
Oui, si on en prend soin. Parce que s'il y a ce réchauffement climatique, les arbres partiront et il n'y aura rien à faire. C'est pour ça qu'il est urgent de planter des arbres, de replanter des haies qui permettent aussi aux nappes phréatiques de se renflouer, de se remplir, parce qu'on n'arrête pas de se plaindre que les nappes phréatiques s'assèchent, qu'il n'y a plus rien, que c'est sec. Mais si on ne met pas d'urgence des haies autour des champs, on va vraiment à notre perte, parce que la terre se dessèche. Elle a été tellement malmenée par l'industrie, l'agriculture industrielle avec les pesticides et insecticides. Ils en mettent de plus en plus parce qu'il y a moins de rendement, alors qu'au début, quand ils ont commencé à mettre les produits chimiques, ça a énormément donné et tout le monde a été enthousiaste. Ils ont changé le savoir ancestral des paysans qui avaient leur savoir. Et tout ça a été complètement
Mais Juliette Binoche, si vous êtes la marraine de ce festival Branche et Ciné, c'est aussi une manière d'affirmer un engagement, au service de la biodiversité contre le réchauffement climatique.
Oui, parce qu'il y a une urgence et que les forêts, soit il y en a encore quelques-unes, mais c'est 1% du territoire français, ce qui est vraiment très très peu. Donc l'ONF essaye au maximum d'entretenir ces forêts et aussi de les protéger, avec 350 forestiers qui sont là et qui font leur travail. Mais par exemple en Italie, c'est 10% du territoire qui est protégé, où les forêts sont protégées. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que les politiques ne prennent pas de décisions drastiques concernant les forêts, de planter des arbres et notamment des haies. De planter des haies, pourquoi ? Parce que ça renfloue les nappes phréatiques qui sont asséchées, ça permet à la biodiversité de perdurer, ça permet de contrecarrer le réchauffement climatique.
Et de respirer enfin.
Quand on voit ces champs où il y a absolument, toutes les haies ont été coupées, c'est pas des petites haies de 3 mètres, hein, c'est des haies qui doivent faire au moins 20 mètres de hauteur. Ça met du temps avant de pousser, ça met 30 ans avant de pousser. Donc je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas fait d'une façon sérieuse et rapide. Je ne comprends pas ça, moi. C'est comme si la conscience n'était pas là.
Vous vous mettez donc au service de ces causes. Et dans le cadre de ce festival, Branche et Ciné, vous avez rencontré l'année dernière le maître de l'animation japonaise Miyazaki, cette année Jacques Perrin. Vous avez parlé de quoi ? Vous avez parlé de leur univers et à l'un et à l'autre, ou vous restez là, Juliette Binoche, très militante aussi ?
Avec Miyazaki, vous pouvez voir l'interview si vous le désirez. Mais il y avait tout simplement, j'étais curieuse de voir pourquoi est-ce qu'il met par exemple une petite fille toujours comme héroïne de son film, pourquoi pas un petit garçon. Elle me disait, la fille quelque part est plus libre, parce que on attend du garçon qu'il ait il va prolonger le patrimoine, et la fille, elle va se marier avec l'homme, parce que c'est quand même très...
Le Japon traditionnel.
C'est le Japon traditionnel qui est encore très... qui enferme beaucoup la femme, quoi. Et le fait de la rendre libre comme ça, j'étais étonnée d'ailleurs qu'il puisse me donner cette réponse-là. Et puis, on a parlé de lui, de son enfance, aussi de sa peine, parce qu'il avait perdu à l'époque, l'année dernière, son associé, hein, qui est aussi dessinateur de films d'animation. Donc ça a été bien passionnante cette interview. Et avec Jacques Perrin, on s'était rencontrés il y a 20 ans. J'étais venue avec lui, avec Francis Allais, qui m'avait demandé de l'aide, de rencontrer des producteurs pour parler des arbres, parce qu'il c'est un botaniste fameux qui se préoccupait vraiment justement de ces forêts primaires qui disparaissent au petit à petit. Et de plus en plus, c'est pour ça qu'en tant que citoyen, c'est important de ne pas acheter d'arbres, de forêts, de bois exotiques, parce que ça lamine ces forêts primaires.
En attendant qu'ils soient interdits une bonne fois pour toutes.
Voilà, mais il faut faire attention que ce ne soit pas trop tard. Et là, c'est pendant qu'il est trop tard, en fait. Mais rencontrer Jacques Perrin, pour moi, c'était important. D'abord parce que c'était mon prince. Hein, on l'a tous, petite fille et petit garçon. Il est quand même le symbole de ma génération, mais aussi de la génération de ma fille, qui est incroyable, parce qu'elle a vu tous les films de demi. Et ça perdure, en fait, hein, cette espèce d'image immaculée de ce prince et de la princesse, ou de l'amoureux, disons, potentiel. Mais c'est un prince de la nature, Jacques Perrin, c'est un prince des forêts, de la mer et des animaux, parce qu'il a su, avec ses documentaires en tant que producteur, vraiment résister à ce qui se passe. Et depuis des décennies maintenant, donc c'est formidable d'avoir des gens comme ça, et il faut toujours parler et essayer de tirer un maximum avant qu'ils tirent la révérence. Je pense qu'il y a... ce sont des êtres comme ça, ce sont des sages, et c'est important de les faire parler dans les médias, de les voir et de les entendre.
Juliette Binoche, quelle est votre forêt préférée ?
La forêt intérieure que nous avons tous, Sur les cheveux, sur les crânes, on a plein de cheveux, on a plein de canopées, de houppiers. Et nos pieds sont nos racines.
Allez, votre arbre préféré?
Mon arbre préféré, je repense celui qui est à Vaucresson et qui était dans notre jardin. C'était un cèdre du Liban, magnifique. Je repense à lui comme à une personne, en fait. Aussi parce que je me souviens, j'étais revenue de tournage, j'étais absolument mais épuisée. Et je me suis adossée à l'arbre avant d'acquérir cette maison. Et j'étais requinquée, mais en une demi-heure, j'étais requinquée. Et je me dis, si cet arbre-là peut faire ce miracle-là, je vais être près de cet arbre. Donc il est toujours un peu à l'intérieur de moi, malgré la distance, et que je n'ai plus cette maison.
Merci, Juliette Binoche.
Merci.
Le festival Branche et Ciné, qui met donc à l'honneur la forêt et qui projette ses films dans des forêts ou dans des salles pas loin des forêts, va commencer après-demain, du 28 juin jusqu'au 20 juillet. Bonjour Olivier Delcroix.
Oui, bonjour Toufik.
Alors, du Figaroscope, Olivier Delcroix. Le Figaroscope qui se transforme en Summerscope l'été. Alors, est-ce que vous irez voir ces films qui mettent la forêt à l'honneur dans une forêt, dans une des 6 forêts où seront projetés tous ces films? Il y a de très beaux films, hein.
Mais j'ai vu qu'il y avait une sélection assez riche et moi, effectivement, qui me fait très envie. Il se trouve que j'avais vu un film projeté c'était dans une forêt et c'était le Napoléon d'Abel Gance. Donc j'ai des souvenirs très précis et très intenses de la projection d'un film en forêt sur grand écran. Je sais qu'il fait très froid, je sais qu'il faut avoir un transat et beaucoup de couches, mais en même temps, le fait de découvrir un film en forêt, ça s'accompagne de bruissements de feuilles, ça s'accompagne
quand
de...
Quand ce n'est pas les chauves-souris qui viennent, bien nous accompagner pour la projection d'un film de James Gray, par exemple, de Lost City of Z, puisqu'il y a ce film qui sera projeté pour cette deuxième édition. Il y a bien sûr African Queen de
James Queen,
bien sûr.
Formidable.
Jeremiah Johnson. En fait, il y a tous les genres, puisqu'il y a aussi bien du documentaire que du film d'aventure, que du film d'animation, et surtout toutes les époques. Il y a même un des premiers films de Renoir.
De Renoir, ouais. Ou La fille de l'eau.
Oui, absolument, voilà, que je n'ai pas vu. Et je me réserve justement une soirée à la forêt pour découvrir ce film de Renoir que vous avez sans doute déjà vu, Olivier Delcroix.
Oui, mais il y a surtout aussi un autre film que j'aime beaucoup. Et là, visiblement, ils ont fait un petit scoop. Ils ont récupéré les droits d'un film qui est le dernier Fantomas à Scotland Yard. Enfin, Fantomas contre Scotland Yard, réalisé en 67 avec Louis de Funès en forêt de Fontainebleau, puisqu'en fait, les scènes de chasse à cour ont été réalisés en forêt de Fontainebleau et ils ont récupéré les droits, donc ils le passeront justement lors de cette deuxième édition du festival Branche et Ciné. Donc ça, c'est assez rigolo quand même, effectivement.
Et vous avez, vous, d'autres plans pour ceux qui ont peur de la forêt la nuit pour passer un excellent été ici à Paris?
Mais oui, curieusement, c'est amusant de s'apercevoir que le Figaro Summerscope est quand même relativement en adéquation avec cette thématique branche et ciné, puisque on s'aperçoit que sur les sommets des toits terrasses et autres rooftops parisiens cet été, il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de canisses, il y a beaucoup de potagers, et c'est la grande tendance actuellement à Paris, c'est de redécouvrir comme ça le bois, tout ce qui est naturel. Et donc on s'aperçoit qu'effectivement le Summerscope cette année est très branché nature.
Ouais, sauf que Paris n'est pas New York, donc les rooftops, est-ce qu'il y en a tant que ça ici à Paris?
On en a fait une sélection assez drastique et on arrive quand même à se renouveler d'année en année. Donc oui, il y en a quelques-uns. Il y a celui de l'hôtel Braque, là, qui par exemple a été sélectionné cette année. Celui de l'année dernière était assez formidable également. Et ce qui est amusant, c'est de s'apercevoir quand on est là-bas, quand on est en hauteur comme ça, quand on prend de la hauteur en fait, pour prendre un verre, un cocktail, un spritz ou je ne sais quoi, qu'on domine Paris et qu'on a la Tour Eiffel en visu, c'est quelque chose d'assez magique. Hein. En plus, vous avez effectivement des vents qui se lèvent. Vous êtes en adéquation complète avec l'espace. Alors qu'en bas, tout fourmille, tout vibrillonne. C'est assez étonnant. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est très apprécié par les lecteurs du Figaroscope et du Summerscope. Mais ça ne nous empêche pas de sélectionner 300 sorties, surtout des sorties culturelles, évidemment, que ça soit la musique, que ça soit le classique, le théâtre, des sorties pour enfants, du cinéma aussi. D'ailleurs, on signale la tenue de cet événement branché ciné, tout à fait. Et donc voilà, donc c'est véritablement, en tout cas dans ce numéro-là, on essaye d'empaqueter les 300 événements incontournables estivales de Paris.
Merci Olivier Delcroix, on se retrouve l'année prochaine.
Avec grand plaisir.
Bel été à vous.
Merci.
Le réveil culturel, c'est tous les jours de 6h à 6h30 à la radio, quand vous voulez, en passant par le podcast ou l'écoute en ligne disponible, entre autres, sur franceculture.fr. Émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Bouchard, avec ce matin à la technique, Manu Couturier. On se retrouve demain à la même heure. Belle matinée sur France Culture.